Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour à tous. Au cours de ces dernières semaines, comme vous avez pu le voir peut-être, j'ai entrepris de passer en revue les diverses formes que prend le regain d'intérêt pour les entretiens de Confucius, le dans le cadre plus global et plus massif de ce qu'on a pu appeler, donc avec un anglicisme que vous me pardonnerez, donc du revival confucéen auquel nous assistons actuellement en Chine. Alors, nous avons vu que sur le terrain politique, l'exploitation de certaines phrases soigneusement sélectionnées de ce texte donne lieu à des slogans qui accompagnent le mot d'ordre officiel de construction d'une société d'harmonie, hein, la fameuse « He xie shi hui ». Sur le terrain éducatif, le Lun Yu, comme nous l'avons vu, est au centre d'un mouvement de lecture des classiques par les enfants qui, en quelque sorte, lui fait retrouver un rôle oublié depuis longtemps de manuel d'éducation élémentaire et, en même temps, moral. Et enfin, nous avons vu la dernière fois que sur le terrain médiatique, des stars de la communication, comme Madame Yutan, passez-moi l'expression, surfent sur la vague de ce revival confucéen en remettant le Lun Yu au goût du jour. Et je devrais même parler de menu du jour, puisque ses détracteurs l'accusent de servir de la soupe de poulet pour l'âme, hein, le xin lin ji tang. Alors, sur tous ces terrains, la figure de Confucius et donc le texte des entretiens qui lui est associé sont exploités à diverses fins, de plus ou moins bon goût, mais en général par des gens dont on peut à peu près parier qu'ils ne savent pas grand-chose en réalité sur Confucius et qu'ils n'ont commencé que tout récemment, dans le meilleur des cas, à pratiquer le texte des entretiens, si ce n'est pour ceux qui l'ont connu dans le cadre de la campagne Pilin Picon, de la campagne de critique contre Lin Biao et Confucius en pleine révolution culturelle. C'est d'ailleurs le cas de certains de mes contemporains chinois, de mes congénères qui sont cadras ou quinquas comme moi. La plupart du temps, en fait, la seule fois où ils ont été en contact avec les entretiens, c'était justement dans ces circonstances. Alors, d'où une certaine précaution que l'on observe dans l'utilisation par les autorités officielles de ce retour confucéen. Hein, il ne faudrait pas croire que nous avons une pure et simple instrumentalisation donc par le haut. C'est beaucoup plus subtil et compliqué que ça. Et en Chine, certains vont même jusqu'à évoquer un risque comparable au sort réservé au mouvement du Falun Gong, dont on parle beaucoup actuellement, mais dont on ne sait pas ou dont on ne sait plus qu'il avait été favorisé par les autorités à ses débuts. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié. Le Falun Gong, c'est un mouvement qui a été soutenu donc par les autorités au début, jusqu'au moment où il a vu la chose se retourner contre lui. Donc là, chat échaudé craint l'eau froide. Donc nous avons des autorités qui maintenant sont assez précautionneuses sur ce genre de mouvement. Alors, il ne faudrait pas oublier non plus à ce propos que le phénomène de retour de Confucius se fait à un moment où c'est la génération qui avait 20 ans au moment de la révolution culturelle qui est aux affaires en Chine actuellement. Et je parle du moins de ceux qui n'y ont pas laissé leur vie ou leur santé physique ou mentale. Alors, vu de notre côté, c'est-à-dire de notre bout du continent eurasiatique, il est amusant de se rappeler que la révolution culturelle est aussi un moment où beaucoup de nos intellectuels français, notamment ceux qui avaient justement 20 ans en mai 68, se sont intéressés à la Chine. J'en profite à ce propos pour vous signaler la publication des carnets du voyage en Chine de Roland Barthes, qui viennent de sortir chez Christian Bourgois. Donc là, on a attendu un certain temps avant de faire paraître ces carnets, qui sont en effet de nature assez personnelle, et qui témoignent donc des trois semaines entre le 11 avril et le 4 mai 1974, des trois semaines passées par Roland Barthes et quelques membres du groupe Tel Quel. Vous vous souvenez sans doute des témoignages de Philippe Solers, de Julia Kristeva et de Marcelin Plenet sur ce même voyage donc en Chine, en pleine campagne donc Pilimpikong, c'est-à-dire donc contre Limpiao et Confucius. Et là, je voulais quand même vous montrer justement certains donc de ces croquis donc exécutés par Roland Barthes au milieu de ces carnets. Alors là, vous avez un croquis de Confucius. Est-ce qu'on pourrait éventuellement baisser la lumière, s'il vous plaît, en régie? Il y a quelqu'un en régie? Personne. Bien. Voilà. Alors donc là, vous avez ce croquis de Confucius. Alors vous voyez, tout y est. Merci. Donc la barbichette, les grands sourcils, etc. Et puis vous avez ensuite donc alors une sorte de calligraphie donc de Roland Barthes qui a consciencieusement pris en note justement tout ce qu'on pouvait lui raconter à l'époque et qui a recopié donc les quatre caractères Pi Lim Pi Kong. Bon, à ceci près qu'il y a quelques fautes d'orthographe, si j'ose dire. Il y a des traits en trop qui se promènent. Et puis, il y a... Enfin, bon, là, je crois que soit il a été mal renseigné, soit il n'a pas bien compris. Mais il nous dit campagne Pilimpikong. Donc, il dit pi, c'est critiquer, bon, si on veut. Et pan, c'est pas du tout ça. Hein. Pan, c'est plutôt juger. Ça veut pas dire abat. Hein. Donc pi pan, c'est un verbe composé, donc qui veut dire donc porter un jugement critique. Bien. Alors donc voilà, petite parenthèse barthienne, donc que je referme tout aussitôt pour revenir donc à la Chine d'aujourd'hui. Hein. Alors. En Chine, encore plus qu'en France, je viens d'évoquer donc la génération de la révolution culturelle en parallèle avec la génération de mai 68, mais je dirais qu'en Chine, encore plus qu'en France, la question générationnelle est primordiale pour comprendre la façon dont les individus perçoivent et pensent leur expérience. Et je dois préciser que ça se joue quelquefois à quelques années près. Je vous donnerai, pour exemple, quelque chose d'assez personnel, puisqu'il s'agit de la famille de mon mari, et de mon mari lui-même, puisqu'il était donc le petit dernier d'une fratrie de trois frères. Il a connu la révolution culturelle comme adolescent, mais n'a pas connu le même sort que son frère aîné, qui n'était pourtant âgé que de quelques années de plus que lui. Et alors que son frère aîné donc a été envoyé au fin fond donc d'une province déshéritée, et je sais de quoi je parle puisque c'est la province du Jiangxi dont sont originaires mes ancêtres. Donc je sais comme c'est une province pauvre et déshéritée, et il a été envoyé là comme beaucoup de jeunes instruits, comme on les appelait à l'époque. Et il est de ceux qui y a laissé sa santé. J'y faisais allusion tout à l'heure, puisqu'il est mort dans la fleur de l'âge quelques temps après la fin de la révolution culturelle. Alors, je voudrais donc signaler à ce propos, pour ceux que ça pourrait intéresser, le livre extrêmement documenté de notre collègue de l'EHESS, Michel Bonin, sur justement ces jeunes instruits. Ça s'intitule « Génération perdue, le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne en Chine entre 1968 et 1980 ». Et c'est paru aux éditions de l'EHESS en 2004. Alors, en particulier, la question de la génération n'est pas sans incidence, comme on va le voir, sur la manière dont les intellectuels chinois relisent actuellement Confucius, puisque donc c'est le quatrième et dernier terrain auquel nous allons nous intéresser. On va voir que le rapport de ces intellectuels à la révolution culturelle compte encore beaucoup justement dans leur façon d'interpréter justement ce qu'ils lisent et ce qu'ils pensent, et plus encore, cette expérience de la révolution culturelle n'est pas perçue par eux comme nécessairement négative, et certains vont même jusqu'à la revendiquer comme faisant partie désormais intégrante de leur destin d'intellectuel. Alors, aujourd'hui, nous nous rapprochons donc de ces cercles intellectuels et universitaires, de cette catégorie que en Chine on appelle le xueshu, c'est-à-dire donc le savoir, et même, disons, l'érudition savante. J'ai déjà évoqué la semaine dernière les initiatives para-universitaires comme celle de la Yidan Xuetang, de l'école Yidan, donc pour promouvoir le retour des études nationales, du Guoxue, et de la lecture des classiques pour les étudiants et pour les adultes. Et dans le domaine para-universitaire, nous avons vu aussi qu'il y a de multiples séminaires, stages intensifs et écoles d'été destinés, par exemple, à un public d'hommes d'affaires en mal de culture et de vie spirituelle. Donc là, nous avons en fait une multiplication justement de ce genre d'initiatives qui sont en marge donc du monde académique. Alors, je signale au passage qu'actuellement sur CCTV, donc la fameuse chaîne de télévision centrale chinoise, vous pouvez voir un feuilleton que je suis en train de suivre parce que pour moi, en fait, le seul intérêt donc qu'il présente, c'est qu'il concerne un groupe d'étudiants diplômés d'une école de commerce qui tente de se lancer dans les affaires. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le héros principal, dont, comme de bien entendu, toutes ses camarades féminines sont amoureuses, Il en a au moins 3 ou 4 sur les bras, donc, enfin, sur les, au sens figuré, naturellement, parce que il est malgré tout très prude, et justement, il a un physique et un mental qui rappellent le héros positif de l'ère maoïste, à ceci près qu'il incarne un idéal très en vogue à l'heure actuelle, mais qui reste probablement la plupart du temps à l'état d'idéal, c'est celui du businessman confucéen. C'est devenu vraiment une expression consacrée en chinois, Ruoshang, c'est-à-dire un homme d'affaires doté d'une très haute conscience morale et qui, dans sa pratique des affaires, n'oublie jamais les principes d'honnêteté, de droiture et de loyauté. Donc, en somme, tout un programme qu'on aimerait bien voir appliquer, notamment dans nos propres milieux d'affaires. Peut-être que ce serait une solution à la crise. Alors, je vous signalais ce feuilleton, puisque là, nous sommes dans une actualité tout à fait brûlante. Maintenant, j'en viens donc à ce milieu proprement académique où nous assistons aujourd'hui à la prolifération donc de projets confucéens au sein même donc des universités, à commencer par les plus prestigieuses, ce qui crée entre elles une sorte de rivalité, voire de guéguerre, et même, enfin, on peut pas véritablement parler de guerre ouverte, mais vous allez voir que la rivalité est quelquefois assez virulente. Alors, à l'interface entre pouvoir politique et monde intellectuel, dont on a vu qu'ils entretiennent des rapports assez subtils et ambigus, nous avons par exemple le lancement d'un projet extrêmement ambitieux, à tel point qu'on se demande si on n'en verra jamais la fin, qui est sponsorisé par l'État et en même temps piloté par des professeurs de l'université de Pékin, Peijing Daxue, ou familièrement appelé Peita. Donc des professeurs comme le très éminent Tran Yijie, qui était auparavant spécialiste donc de l'histoire intellectuelle chinoise et qui a été donc placé à la tête d'un énorme projet de compilation d'une sorte de thésaurus confucéen qu'on a appelé donc le Zhuzang, c'est-à-dire donc, je pense que vous avez le terme ici, voilà donc Zhuzang, thésaurus confucéen, sur le modèle du Fuozang, c'est-à-dire donc du thésaurus bouddhique, ou du Taozang, c'est-à-dire donc du thésaurus taoïste. Alors, ces deux dernières compilations, donc concernant le corpus bouddhique et taoïste, représentent déjà chacune des milliers de volumes. Il y a de quoi remplir une bibliothèque. Mais l'idée donc d'appliquer le principe aux matériaux confucéens reviendrait pratiquement en fait à couvrir toute la littérature chinoise. Donc là, je dois dire que j'ai quelques doutes donc sur la viabilité donc d'un tel projet. Mais enfin, c'est donc un de ces projets un petit peu mégalomanes, donc lancé à la fois de manière concertée donc par l'autorité politique et l'autorité académique. Alors, d'autre part, les intellectuels et les universitaires sont invités à fournir donc au mot d'ordre officiel de Société d'harmonie des références classiques qu'ils puissent, pour ainsi dire, naturellement dans les classiques confucéens. Et on peut dire que c'est devenu une spécialité de bon nombre d'universitaires originellement spécialistes d'histoire du confucianisme et dont beaucoup enseigne à l'Université du Peuple, Renmin Dashue, ou Renda, donc pour les intimes, à Pékin. Alors, cette université présente un profil un petit peu paradoxal actuellement, puisque, donc, elle, comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une université créée soi-disant pour le peuple. En fait, c'était pour assurer la formation idéologique des cadres du parti, donc, à partir de 1937, c'est-à-dire donc dès le début du conflit sino-japonais. Et c'est cette même université donc, du peuple qui a été la première à ériger donc, en 2001 une statue donc, de Confucius à l'effigie donc à l'entrée du campus. Donc là, je crois que je peux vous montrer une photo donc de cette statue. Donc voici. Pardon. Voilà. Donc voyez, enfin vous avez cette quand vous entrez dans le campus de l'Université du Peuple, voilà ce que vous voyez. Hein, donc statue, comment dire, c'est un petit peu du néoclassique, si j'ose dire, une statue donc où Confucius est représenté donc en costume donc traditionnel avec justement une posture ritualiste hein, donc c'est également donc dans cette université du peuple qu'a été créé peu de temps après donc l'érection de cette statue en novembre 2002 un institut de recherche Confucius, donc encore un, donc je vous avais parlé il y a quelque temps donc de cette prolifération de ce genre d'institut de recherche Confucius, donc là vous en avez un Kongzi Yanjiyuan, donc créé donc sur le campus de l'Université du Peuple et présidé par un professeur, le professeur Zhang Liwen. Qui était donc à l'origine spécialiste du néo-confucianisme des Song hein, et qui est auteur d'un ouvrage qui s'intitule donc He Yu Tongya Yish, c'est-à-dire donc harmonie, unité et conscience est-asiatique. Alors, cette histoire de He, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, en fait, il s'agit, vous avez le nom ici du professeur Zhang Liwen, ici. Et donc, le professeur Zhang Liwen, depuis quelques années, joue justement sur cette homonymie, ou cette homophonie, plus exactement, entre le He, qui veut dire harmonie, donc en chinois, et un autre He, donc, qui se prononce exactement de la même façon, mais qui s'écrit autrement, et qui veut dire donc unification ou unité. Hein, donc il joue sur justement cette homophonie pour nous montrer que la construction de la société d'harmonie, hein, va de pair justement avec une unification donc du corps social hein, et évidemment ce profil en arrière-fond bien sûr la réunification de la Grande Chine hein, notamment donc avec Taïwan dont on parle beaucoup actuellement et qui de fait est sur le devant de l'actualité hein. Alors cette même université donc, du peuple est en train justement de mettre en place le projet également d'un thésaurus confucéen, un autre Ruzang, qui bien sûr est plus ou moins concurrent donc, de celui de Beida, donc de l'université de Pékin. Et depuis 2004, cet institut de recherche Confucius organise chaque année aux environs du 28 septembre, c'est-à-dire donc de la date anniversaire de Confucius, un ensemble de manifestations destinées à promouvoir donc la culture traditionnelle chinoise au cours d'un mois de la culture confucéenne. Donc là aussi, en concurrence avec ce qui se passe à Chufu, donc à la même période de l'année. Donc vous voyez que là, nous avons donc une sorte de rivalité entre divers centres académiques et avec des projets tout à fait concurrents. Alors, face aux refondateurs d'un confucianisme très officiel, certains intellectuels universitaires font entendre un autre son de cloche en proposant leur propre lecture des entretiens, quitte à s'attirer les foudres justement de leurs collègues donc, qui sont engagés dans des projets différents. On peut dire qu'à l'heure actuelle, les entretiens, pourtant un texte qui date d'il y a plus de 2000 ans, donne lieu à des polémiques extrêmement virulentes. Nous avons actuellement des controverses autour d'un livre qui est paru donc récemment, en 2007, à savoir donc le livre d'un professeur de l'Université de Pékin qui s'appelle Li Ling et donc qui est l'auteur d'un ouvrage au titre assez explosif puisque là j'essaye de vous montrer la couverture donc de ce livre. Donc là, oui, je repasse en revue un petit peu. Ça, c'est la couverture donc d'un ouvrage dont on a parlé la semaine dernière, à savoir le livre de Yutan, donc sur les entretiens. Oui, alors là, c'est donc le pamphlet donc anti-Yutan. Et ici, vous avez donc la couverture donc de l'ouvrage de Li Ling. Alors là, vous aurez peut-être du mal à déchiffrer le titre, puisque en fait, il a choisi des caractères volontairement archaïques. Mais ce titre, c'est Sangjiago. Sangjiago, qui veut dire, si on traduit un petit peu librement, donc chien perdu sans collier. Et c'est le chien perdu sans collier, c'est censé être Confucius lui-même. Alors donc vous voyez un petit peu déjà où se trouve la provocation. Et sur la couverture, vous pouvez voir que il y a un sous-titre qui dit Wo Du Lun Yu, c'est-à-dire donc ma lecture, c'est comment je lis donc les entretiens, ma lecture personnelle des entretiens. Et là, nous allons voir qu'il s'agit d'une lecture effectivement, en tout cas, sinon personnelle, du moins qui va à contre-courant justement de tout ce que nous avons décrit précédemment. Alors, Li Ling, c'est important de le savoir, donc né en 1948. Donc il fait justement partie de cette génération qui avait 20 ans donc, au moment de la révolution culturelle. Il est actuellement professeur d'histoire donc, à Peita et spécialiste des textes de l'Antiquité chinoise. Donc contrairement à Madame Yutan, dont nous avons vu l'ouvrage la dernière fois, donc c'est un authentique connaisseur donc de l'histoire ancienne et des ressources textuelles de l'Antiquité chinoise. Alors dans sa préface, Li Ling part du constat que le Lun Yu, les entretiens donc fait fureur depuis quelques années, à tel point que lui-même a dû, il a été pratiquement forcé, on lui a forcé la main, il a été obligé d'ouvrir un cours donc, sur les entretiens de Confucius à Peita depuis 2004. Mais il a donc mis à profit justement ce cours pour montrer que Maître Krong, c'est-à-dire donc le vrai, l'historique Maître Krong, n'est ni un sage, hein, c'est-à-dire ni un shengren, comme on dit en chinois, ni un roi ou un souverain quelconque. Hein, et Li Ling se fait fort justement de prouver que c'est Confucius lui-même qui le dit, hein, qu'il n'est ni un sage, ni un souverain de quelque manière que ce soit. Hein. Et Li Ling va même plus loin en disant que c'est Confucius lui-même qui se décrit comme un chien sans collier, un chien perdu sans collier, un chien errant. Alors, en effet, ceci apparaît donc dans la biographie de Confucius, dans la première source historique dont nous disposons, à savoir donc les annales historiques, le Shi Ji, de Sima Qian, qui date donc de la fin du IIe siècle avant l'ère chrétienne. Donc là, Sima Qian donc comment dire rédige donc son Shi Ji à donc plusieurs siècles de distance par rapport donc au vivant de Confucius. Alors vous avez ici donc l'extrait donc en question. Dans le Kongzi Shijia, c'est-à-dire donc, là j'ai un peu de mal à avoir le texte en entier, mais bien, et qui constitue donc le chapitre 47 de ces annales historiques de Sima Qian. Donc je vous donne le texte en chinois pour ceux d'entre vous qui peuvent le lire. Donc je vais le lire et vous donner la traduction, hein, parce que là, je pense que le texte d'origine est important. Alors, d'abord, le contexte, avant de vous donner le texte. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur la biographie de Confucius, mais qu'il suffise pour l'instant de préciser que l'épisode en question intervient dans une période de la vie de Confucius, où il a quitté son pays natal de Luo, hein, c'est-à-dire donc justement autour de l'actuel Chufu, dans la province du Shandong, hein, et il est parti et il vague, hein, il erre justement d'un pays à l'autre à la recherche d'un souverain qui soit disposé donc à l'employer, à le prendre comme conseiller. Alors, cet extrait dit ceci. Kongzi shi zheng, yu di zi xiang shi, Kongzi du li, guo dong men. Donc, Kongzi, c'est ainsi que le Sima Qian le désigne. Donc, Maître Krong se rend, hein, au pays de Zheng. Et là, il perd de vue ses disciples, et donc il se trouve à les attendre tout seul. Il est debout tout seul à les attendre donc au Kuodongmen, c'est-à-dire donc à la porte de l'est, à la porte orientale du mur d'enceinte donc de la ville. Alors, Zheng Ren Huo Wei Zi Gong Yue. 东门有人，其嗓嘶摇，其相肋高摇，其肩肋子缠，然自腰以下不及于三寸，累累若丧家之狗。C'est-à-dire donc les gens de Zheng donc viennent dire à son disciple Zigong, pour ceux d'entre vous qui se souviennent, J'avais cité justement un passage des entretiens de Confucius à propos du livre de Yutan, donc, où elle cite un dialogue entre le maître et ce disciple qui revient décidément assez souvent. Hein. Donc, quelqu'un de Cheng vient trouver donc Zekong pour lui dire à la porte de l'Est, il y a un homme. Hein, qui a un front, hein, donc là vous allez avoir une description en fait du physique Confucius, mais en des termes mythiques, hein, c'est-à-dire donc il a un front qui ressemble à celui du sage mythique Yao. Là, j'avais déjà eu l'occasion d'attirer votre attention justement sur ce front très très haut qui est censé être signe de sagesse. Un cou comme celui de Cao Yao, autre sage mythique de l'Antiquité, des épaules comme Zichan, donc là aussi un personnage de l'Antiquité chinoise, et il n'a que donc San Cun, c'est-à-dire 3 pouces de moins que Yu, encore un autre sage, donc un sage souverain de l'Antiquité mythique. Il n'a que 3 pouces de moins que le sage Yu, en dessous de la taille. Hein, c'est-à-dire, donc, là, nous aurons l'occasion, justement, de revenir sur la grande taille physique, enfin, qui était attribuée donc à Confucius, à tel point que Li Ling, justement, dans le livre que je suis en train de vous présenter actuellement, Li Ling nous dit qu'on pourrait supposer que Confucius avait à peu près la taille du basketteur Yao Ming, donc le basketteur dont on a beaucoup parlé lors des Jeux Olympiques. Voilà. Alors donc là, ces gens de Cheng sont frappés par la prestance physique de Confucius. Il y a cet homme qui a un aspect physique assez exceptionnel, et pourtant, Lei Ruo Sang Jia Zhe Gou, c'est-à-dire il a un air abattu, hein, découragé, comme un chien qui a perdu sa maison, hein, qui n'a plus de maison. Et donc, c'est cette expression donc de Sang Jia Zhe Gou que Li Ling reprend donc dans le titre de son livre. Alors, l'histoire continue en disant donc Zigong Yi Shi Gao Kongzi, c'est-à-dire donc Zigong vient rapporter donc ces faits à Maître Kong. Et voici la réaction donc de l'intéressé. Kongzi, xin ran xiao yue, xing zhuang mo ye, er wei, si sang jia zhe gou, ran zai, ran zai. Donc Confucius, donc Maître Kong, il rit, hein, il rit de bon cœur, xin ran xiao. Là, vous avez dans les entretiens, comme nous aurons sans doute l'occasion de le voir, quelques indications qui ressemblent un petit peu à des didascalies, si vous voulez, c'est-à-dire des indications justement sur la façon dont Confucius réagit. On le voit rire, on le voit pleurer, on le voit sourire, on le voit beaucoup soupirer, hein, et tout ça est indiqué dans le texte des entretiens. Donc ici, Sima Qian est tout à fait fidèle donc à l'esprit des entretiens. Alors il répond donc en riant de bon cœur. Hein, mon aspect extérieur, hein, c'est secondaire. Hein, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein, mais dire que je ressemble à un chien qui sans maison, un chien perdu. Ranzai, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc là, on voit que Li Ling, évidemment, peut se faire fort justement de s'abriter derrière justement cette citation où on voit Confucius. Donc, alors là, c'est un passage qu'on ne trouve pas dans les entretiens, hein, mais quand même, Li Ling a beau jeu justement de citer donc cette source ancienne pour justement justifier donc la provocation qu'il y a dans le titre de son livre. Alors, de toute évidence, hein, et on le voit justement dans le projet qui apparaît dans ce livre de Li Ling, il préfère donc un Kongzi humain, même trop humain. Hein, et le portrait qu'il en fait ressemble à s'y méprendre, hein, à Li Ling lui-même. Hein, il décrit donc Confucius sous les traits de quelqu'un qui ne se lasse pas d'enseigner. Là, il reprend une expression presque consacrée donc en chinois, hui ren bu juan, donc quelqu'un qui est adonné aux études anciennes, à l'étude de l'Antiquité, hein, comme lui. Il décrit aussi Confucius comme un intellectuel critique et toujours prêt à prendre parti. Donc là, nous avons en fait un portrait de Confucius qui est quand même assez éloigné de celui qui transparaît dans le livre de Yu Tan, par exemple. Yu Tan qui nous dit que Confucius est un petit peu un marchand de soupe, en quelque sorte, hein, quelqu'un qui vous vend du bien-être. Ici, au contraire, Li Ling insiste sur le fait que Maître Kong, c'est quelqu'un qui, au contraire, assume tout à fait l'inconfort de son statut de conscience critique et d'intellectuel. Et même, Li Ling dit explicitement qu'il voit en Maître Kong l'incarnation de ce que je cite, hein, du destin de l'intellectuel qui reste fondamentalement seul comme un chien, hein, et qui désespère de ses concitoyens. Donc là, nous avons en fait une vision assez pessimiste, au fond, des capacités critiques donc de la société chinoise actuelle, hein, chez un intellectuel comme Li Ling. Et à plusieurs reprises, il compare Maître Kong, et donc se compare lui-même, à Don Quichotte, au personnage de Don Quichotte dans le rôle du solitaire idéaliste, hein, et sans cesse vaincu par la réalité autour de lui. Or, et c'est là donc le grand paradoxe de la démarche de Li Ling, hein, c'est qu'il admet qu'en réalité, il n'aimait pas lire les entretiens de Confucius. C'est pas du tout sa lecture favorite, hein, et que cela vaut depuis son enfance et sa jeunesse. Hein, il dit même depuis le lycée. Hein. Et alors c'est là justement l'occasion de se rappeler que donc Li Ling, né en 1948, était adolescent, donc juste avant la Révolution culturelle. Et il dit en outre clairement, hein, que, évidemment, dans la Chine qu'il a connue étant jeune, il n'a reçu aucune espèce d'éducation confucéenne. Et alors là, c'est une notation amusante pour nous. Hein. Il dit dans sa préface que c'est même en France qu'il a découvert le nouveau confucianisme contemporain. Comme quoi, donc, ce nouveau confucianisme contemporain est mondialisé, hein, puisque c'est en France qu'un intellectuel chinois donc entend parler pour la première fois de ce phénomène. Alors, sa lecture des entretiens, donc, comme je le disais tout à l'heure, se veut extrêmement personnelle, loin de toute récupération idéologique. Enfin, ça, c'est Li Ling lui-même qui le dit. Hein. Alors, et il n'a bien sûr aucune tendresse pour ceux qu'il appelle les marchands du temple. Hein, et là, je pense qu'il a en ligne de mire quelqu'un comme Yu Tan. Hein, et Li Ling, c'est pas quelqu'un qui mâche ses mots. Hein. À notre grande surprise, justement, il réhabilite donc le mouvement du 4 mai 1919 dont nous avons eu l'occasion de voir que, d'une certaine manière, c'est une sorte de préfiguration de la révolution culturelle, ou du moins, on pourrait plutôt inverser la chose en disant que la révolution culturelle, en fait, se référait de manière plus ou moins explicite donc au mouvement du 4 mai 1919. Et donc, Li Ling, lui, en fait, choisit donc de réhabiliter ce mouvement éminemment iconoclaste, qui, selon lui, a eu au moins le mérite de faire descendre Confucius de son piédestal, justement, de saint divinisé, pour le remettre à sa place d'origine, c'est-à-dire celle d'un maître parmi tant d'autres qui ont marqué donc l'Antiquité préimpériale. Donc, d'une certaine manière, Li Ling revient donc au discours de Ruch, qui était donc une figure de proue du 4 mai 1919, et qui, dans son histoire de la pensée chinoise, de la pensée ancienne chinoise, fait précisément cela, c'est-à-dire donc décaper justement toute la couche de sédimentation, donc qui fait agiographique, enfin qui fait de Confucius une sorte de saint absolu, et qui le ramène justement à son statut donc de Zhuzi, c'est-à-dire donc de maître à penser simplement de l'Antiquité chinoise. Et donc Li Ling dit donc sa réticence de toujours vis-à-vis de toute forme d'embrigadement intellectuel et moral, et il n'a pas de mots assez durs vis-à-vis de certains de ses homologues universitaires. Et il se déclare très ouvertement et avec beaucoup de virulence critique donc de ce qu'il appelle le fondamentalisme ambiant. Il emploie même explicitement le mot anglais, fundamentalism. Et là, je pense que Li Ling parle en l'occurrence de certaines lectures occidentales, comme celle du Boston Confucianism, du confucianisme de Boston autour de personnages comme Tu Weiming, que j'évoquais il y a quelque temps, mais il vise encore plus directement, je pense, notamment ses collègues de l'Université du Peuple, dont je viens de parler. Et nous avons là donc la riposte, au fond, d'un historien à la tribu donc de ces philosophes qui sont engagés justement dans un projet revivaliste, en quelque sorte. Et notre Li Ling va même plus loin en rappelant que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des grands maîtres du renouveau confucéen en Chine était encore hier, c'est-à-dire il y a juste une génération, celle de la révolution culturelle précisément, les partisans les plus virulents de la campagne de critique contre Lin Biao et Confucius de 1974. Il dit même que ça il me l'a dit donc en conversation privée, donc lorsque je l'ai vu il y a à peu près un an, donc il est la cible d'attaques extrêmement virulentes à la fois dans les médias et sur la toile, donc sur Internet, de la part justement de ces milieux qu'il appelle fondamentalistes. Et il m'a même dit, alors, mais en plaisantant qu'à moitié, que certains voulaient sa mort, même. Donc là, nous avons presque une espèce de fatwa donc lancée contre Li Ling. Alors, on comprend pourquoi, puisque en fait, Li Ling laisse entendre que le nouvel ordre moral actuel est en fait une résurgence de l'esprit de Liu Shaoqi, donc dont vous vous souvenez peut-être qu'il est mort en 1969, donc après une campagne donc de persécution lancée par Mao contre lui, et qui était l'auteur du fameux traité Comment être un bon communiste. 论共产党员的修养。Et partant, Li Ling donc dit ouvertement que nous avons dans le fondamentalisme actuel une sorte de revanche sur le mouvement donc du Pilin Picon. Donc là, vous voyez que dans ces lectures actuelles des entretiens, on voit se profiler donc l'occasion de règlements de compte qui n'ont rien perdu de leur violence et de leur virulence depuis les affrontements idéologiques extrêmement là aussi violents de la révolution culturelle. Donc d'une certaine manière, c'est intéressant pour nous de voir que à travers donc la lecture d'un livre aussi canonique que celui des entretiens, donc nous avons justement, nous voyons se profiler en fait des luttes idéologique extrêmement forte. Et alors par là-dessus viennent donc les attaques, puisqu'il y a ces attaques de Li Ling contre ses collègues, mais alors il y a également des contre-attaques d'autres intellectuels universitaires, comme celle d'un dénommé Chen Ming, qui est donc chercheur à, vous avez son nom ici, donc Chen Ming, donc qui est chercheur à l'Institut des religions du monde de l'Académie des sciences sociales de Chine. Donc là, vous voyez un petit peu comment se font toutes ces rivalités et ces guéguerres, alors qui correspondent aussi à des rivalités entre institutions. Donc là, vous voyez comment l'Université de Pékin attaque donc l'Université du Peuple, et comment un troisième larron, donc, qui est à l'Académie des sciences sociales de Chine, contre-attaque de son côté. Alors, ce Chen Ming est également fondateur et rédacteur en chef d'un périodique qui s'appelle donc Yuantao, Yuantao, donc qui veut dire littéralement donc la voix de l'origine, la voix originelle, et qui fait référence déjà à un premier mouvement refondateur qui date lui du 8e siècle de l'ère chrétienne, lancé par un dénommé Han Yu, donc, et qui a justement écrit un essai qui s'appelle Yuantao, donc la voix originelle, et qui prétendait justement refonder donc l'esprit confucéen après justement à peu près 8 siècles de bouddhisme, de présence bouddhique en Chine. Donc là, ce titre de périodique n'est pas innocent. Et donc, effectivement, nous avons ici un périodique qu'on peut étiqueter comme néo-traditionnaliste, puisque il est assez proche de la mouvance des études nationales, du Guoxue, dont je vous parle de manière insistante depuis quelque temps, et qui publie beaucoup d'articles de jeunes chercheurs étiquetés donc conservateurs culturels. Donc là, nous sommes justement avec ce périodique qui a été fondé en 1994, donc dans justement un discours refondateur et de la tradition culturelle. Et un article de mai 2007, donc là qui date d'il y a un an, donc paru sur Internet, parce que là toutes ces polémiques se font largement donc sur Internet, donc d'où là la nécessité aussi de regarder de ce côté-là. Cet article s'interroge justement sur les raisons des attaques dirigées contre Li Ling, et renvoie dos à dos Li Ling, donc l'universitaire, et Yu Dan, donc la star de la communication. Et cet article dit ceci: si Yu Dan réduit les entretiens de Confucius à du bouillon de poulet pour l'âme, ça montre simplement les limites de sa capacité de compréhension. Ça, c'est pas très gentil pour elle. Mais d'un autre côté, Si Li Ling réduit Maître Kong donc à un chien errant, ça montre simplement qu'il projette sur Confucius son propre état d'esprit. Autrement dit, il fait du subjectivisme, hein, d'une, en quelque sorte. Hein. Donc là, nous avons le choix donc, entre quelque chose qui est censé donc, nous faire du bien et quelque chose qui ressemble davantage à du poil à gratter, hein, mais qui dont on peut évidemment soupçonner que ça n'est que la projection finalement des visées, des désirs subjectifs d'un intellectuel en particulier. Bien. Alors, je crois que je vais devoir m'arrêter ici aujourd'hui. Et probablement donc la prochaine fois, nous aurons peut-être l'occasion de dire quelques mots sur justement, nous avons vu un petit peu aujourd'hui la voix d'un nous avons entendu la voix d'un historien. La prochaine fois, il faudra peut-être donner un petit peu la parole aux philosophes, mais pas ceux justement qui se réclament de ce fondamentalisme confucéen. Je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.